Vous êtes sur 97.1 à l'écoute de Couleur FM. Aujourd'hui, Michel Guillet vous emmène sur les chemins du Nord-Isère à la découverte de la commune de Maubec. Maubec est l'une des 22 communes de la communauté d'agglomération des Portes de l'Isère, plus connue par ses initiales, la CAPI. Elle tient son nom de sa situation sur un promontoire qui domine la ville de Bourgoin-Jallieu dont elle est limitrophe. Ses quelques 1500 habitants, les Maubelans, habitent en majorité sur ce plateau, alors qu'à l'est, une activité industrielle et artisanale s'est développée dans la vallée du Bion. Sa situation de forteresse naturelle en a fait un territoire habité depuis plusieurs siècles avant le début de l'ère chrétienne. Aujourd'hui, elle fait partie de ces villages à dimension humaine où la vie y est agréable. Nous y avons rencontré Annick Arnold, maire depuis 2008, Françoise Gibaja, conseillère municipale et présidente de l'association CJA, Olivier Tisserand avec son association de vieux tracteurs. L'activité économique sera représentée par les moulins du Bion, un éleveur de porcs, un éleveur de bovins et plusieurs activités artisanales ou d'art créatif.
Bonjour Annick Arnold, vous êtes maire de Maubec. Je vous ai demandé de vous présenter et puis de présenter un petit peu votre commune.
Bonjour, alors moi je suis maire depuis 2008, mais auparavant j'avais fait en 1989 un mandat de conseillère municipale, deux mandats d'adjoint et mon premier mandat de maire donc en 2008, et là j'en suis au second mandat. Notre commune est située dans la partie nord-est du département de l'Isère. Elle s'étend sur une surface de 857 hectares et donc elle est sur un plateau au versant raide qui domine Bourgoin-Jallieu et la vallée de la Bourbre, puis au nord l'étroite combe du Bion à l'est et au sud. Le bourg est construit sur le long de la 523 qui le relie à Bourgoin-Jallieu. Et donc, sur le secteur de la combe du Bion se trouve notre zone artisanale. Donc c'est un village qui allie le calme de la campagne et la proximité de la ville. Nous ne sommes pas loin des services, à 25 minutes, 30 minutes de l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry, près des échangeurs autoroutiers.
Et vous avez à peu près combien d'habitants sur la commune de Maubec ?
Alors actuellement nous avons 1748 habitants. Nous avons des nouveaux habitants, donc il faut s'adapter à leurs demandes.
Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'activité économique de Maubec qui se trouve, je crois, plutôt dans la vallée du Bion ?
Oui, c'est une petite zone d'activité économique qui est de compétence CAPI maintenant. Nous avons des entreprises assez importantes comme les Moulins du Bion, par exemple, ou Fèvelet.
Je crois que Fèvelet, ce sont des gens qui fabriquent des moules pour l'industrie plastique en particulier.
Oui, c'est ça, exact.
Son passé est chargé d'histoire et de noms célèbres. Les premières traces d'une occupation humaine remontent à bien avant le début de l'ère chrétienne. Puis, après avoir été territoire de la tribu des Allobroges, elle devint une baronnie vassale des ducs de Savoie. Elle dépendait de la puissante famille des Boxozel en lutte avec les dauphins du Viennois. Plus tard, c'est Jean-Jacques Rousseau qui séjourna quelque temps à la ferme de Monquin, ainsi que le peintre Victor Charton qui a donné son nom au musée de Bourgoin-Jallieu. Au XVIIIe siècle, la baronnie, devenue marquisat, fut la propriété des familles de Lorraine et de Guise. Dans l'histoire, les légendes ne sont jamais très loin, et celle concernant Roland, le neveu de Charlemagne, est assez surprenante. Annick Arnold va nous détailler l'histoire de sa commune.
Alors Maubec a été une importante baronnie vassale du duc de Savoie, érigée en marquisat au XVIIe siècle. Mais avant, il y a eu sur la commune, au lieu dit La Garine, c'est une colline, appelée aussi Mont-Léopard, il y a eu une première motte castrale. Et au XIIIe siècle, il ne restait des seigneurs du Mont-Léopard, donc, puisque cette colline s'appelait également Mont-Léopard, au XIIIe siècle, il ne restait qu'un descendant, ou une descendante plus exactement, qui se maria avec un Boxozel. Et ensuite, ce Gilles de Boxozel fit construire le château des Roches, dont il ne reste qu'un pan de mur aujourd'hui. Alors, il y a eu, paraît-il, de sanglantes batailles entre Maubec, qui faisait partie de la Savoie, et Bourgoin, qui était sous l'autorité du dauphin. Mais je vous rassure, aujourd'hui, les relations se sont apaisées.
Le souvenir de Jean-Jacques Rousseau fait partie de l'histoire de Maubec. Donc, Madame Arnold, vous allez peut-être nous apporter quelques précisions sur son passage. À quelle période de sa vie est-il venu à Maubec et puis combien de temps il est resté? Je crois que c'était assez bref.
Alors, il est venu à Maubec à l'âge de 56 ans, c'est-à-dire de janvier 1769 à avril 1770, soit environ 18 mois.
D'accord. Et pourquoi est-ce qu'il est venu à Maubec, alors que je crois qu'il est résidé à Bourgoin principalement, et qui l'a accueilli à Maubec?
Alors, il voulait fuir l'humidité des marais de Bourgoin, et puis, comme toujours, il se sentait persécuté. Donc, on suppose que Madame de Césarge avait eu vent de son désir de fuir Bourgoin, et comme elle appréciait beaucoup les idées à la
mode, elle lui a donc proposé de l'héberger à la ferme Monquin, qui était sa propriété. Donc là, il pouvait méditer, herboriser, écrire.
Oui, donc il avait une chambre, je suppose, dans la ferme de Monquin. Et est-ce que cette chambre existe toujours ?
Alors oui, sa chambre existe toujours. Simplement, elle a été séparée en deux. Et à l'époque, il y avait une fresque qui représentait le sacrifice d'Abraham. Fresque qui existe toujours, mais qui est cachée sous du plâtre ou des peintures.
Donc vous avez dit qu'il avait effectivement, il avait profité pour son séjour à Maubec pour écrire et pour méditer et pour faire aussi de l'herboristerie. Est-ce qu'il a écrit des éléments importants de son œuvre ?
Alors, il y a écrit la dernière partie des Confessions et il a rédigé 47 de ses lettres. Il écrira d'ailleurs dans une de ses lettres que Maubec serait un village agréable s'il avait d'autres habitants.
Toujours sympa pour les habitants.
Mais ça a beaucoup changé.
J'en doute pas que c'est beaucoup changé depuis. Donc, il était marié à l'époque où il est arrivé à Maubec. Il était marié à Marie-Thérèse Levasseur. Et qui était Marie-Thérèse Levasseur, un peu les grandes lignes un petit peu de leur vie commune?
Alors, il s'est marié à Bourgoin en août 1768 avec Thérèse Levasseur. C'était un mariage à la sauvette. C'était un mariage civil. Thérèse Levasseur était beaucoup plus jeune que lui. Elle avait, je crois, 23 ans de moins. De mémoire, elle devait être lingère. Bon, elle n'était pas du tout instruite. Il n'a jamais pu lui apprendre à lire l'heure, ni à lui apprendre à réciter les 12 mois de l'année dans l'ordre. Mais bon, c'était sa compagne. Elle a beaucoup compté pour lui. Et il lui a fait 5 enfants, je crois, qu'ils ont abandonnés, comme chacun sait.
Tout à fait en harmonie avec ses écrits. Donc, on a parlé de la ferme de Monquin, mais la ferme de Monquin, c'est aussi un bâtiment assez exceptionnel à Maubec. Vous pouvez nous parler un petit peu des origines de la ferme de Monquin?
Alors, elle est située au hameau du Grand Palaisin et elle doit son nom à une célèbre famille qui était établie en ce lieu vers le 15e siècle. Alors, elle aurait une origine romaine, puisque Monquin vient du latin Monte Canis, le mont des chiens, ce qui expliquerait les armoiries toujours portées par les deux Monquin, d'or à la bande d'azur chargée de 3 épagnoles d'argent. Donc maintenant, elle est la propriété de la famille Falcoz, une ancienne famille de Maubec.
Victor Charton est un peintre connu qui a donné son nom au musée de Bourgoin et je crois qu'il a quelques liens avec le village de Maubec.
Oui, il a vécu une partie de son enfance dans une villa qui se situe à La Combe, la villa du Lys Martagon.
Maubec a une église qui, je crois, est excentrée par rapport au reste du village et qui possède des fresques intéressantes.
Oui, effectivement, l'église du village est excentrée puisqu'au départ, c'était un prieuré. L'église du village se situait au hameau de Palaisin puisqu'autrefois, c'était à Palaisin que se situait le cœur du village. Et l'église de Palaisin menace en ruine. Il a été autorisé au prêtre de la paroisse de dire la messe donc au prieuré qui est devenu l'église du village. Alors, il y a des fresques qui ont été restaurées il y a une vingtaine d'années qui avaient été découverte, je dirais, dans les années 70 par l'abbé Noraz et qui ont été relativement bien protégées puisqu'elles avaient été badigeonnées d'une couche de peinture, ce qui les a protégées. Donc ces fresques, nous les avons fait restaurer et elles datent de la fin du XVIIe siècle et même si elles ne sont pas classées monuments historiques, elles sont remarquables d'après Sylvie Vincent du département.
Nous sommes pas dans les Pyrénées, mais je crois qu'il y a une légende autour de Roland et Roncevaux qui se dit à Maubec.
Oui, alors d'après la légende, il faudrait situer la grande bataille de Roland de Roncevaux sur les terres qui portent son nom. Il y a un lieu à Maubec qui s'appelle En Roland. Moi, quand j'étais petite, j'ai souvent entendu mes grands-parents dire « on va en Roland ». Et donc, c'est là que le chevalier se serait désaltéré après avoir défait ses ennemis. Et donc, à cet endroit, une croix a été érigée au bord de la grande route parce que la bataille de Roland, si elle a eu lieu, se situait plus dans les terres et donc la croix a été érigée près de la grande route et s'appelle la croix de Roland.
Vous êtes sur 97.1 à l'écoute de Couleur FM. Maintenant, une petite pause musicale avec Bobby Lapointe et la maman des poissons.
Si l'on ne voit pas pleurer les poissons qui sont dans l'eau profonde, c'est que jamais quand ils sont polissons, leur maman ne les gronde. Quand ils s'oublient à faire pipi au lit, ou bien sur leurs chaussettes, ou à cracher comme des papolis, elles restent muettes. petite, la maman des poissons. Elle est bien gentille, elle ne leur fait jamais la vie, ne leur fait jamais de tartines. Ils mangent quand ils ont envie et quand ça a dîné sardine. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. La maman des poissons, elle est bien gentille, s'ils veulent prendre un petit verre, elle les approuve de deux ouïes, leur montre en comment sans ennui, on les décroche de leur patère. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils, ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. La maman des poissons, elle est bien gentille, s'ils veulent être maquereaux, c'est pas elle qui les empêche de se faire des raies bleues sur le dos dans un banc à peinture fraîche. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils, ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. La maman des poissons, elle est bien gentille, j'en connais un qui s'est marié à une grande république. Il dit quand elle lui fait la nique, ah qu'est-ce que tu me fais marrer. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. Ce qu'il en ne voit pas pleurer les poissons qui sont dans l'eau profonde, c'est que jamais quand ils sont polissons, leur maman ne les gronde. Quand ils s'oublient à faire pipi au lit, ou bien sur leurs chaussettes, ou à cracher comme des papolis, elle reste muette. La maman des poissons, elle est bien gentille.
Comme toutes nos communes, Maubec est riche d'une vie associative très active. Difficile de faire un choix parmi ce qui est proposé. Nous avons opté pour deux associations. Le CJA, présidé par Françoise Gibaja, pour le grand nombre d'activités qu'il propose, et l'association des vieux tracteurs, présidée par Olivier Tisserand, pour son originalité et son rayonnement dans la région. Le CJA, Club des jeunes d'animation, est une association importante à Maubec. Françoise Gibaja, sa présidente, va nous parler de ses multiples activités.
Bonjour. Oui, le CJA est une très ancienne association sur Maubec, puisqu'elle a fêté l'année dernière ses 40 ans, qu'elle a été créée par un groupe de Maubelans en avril 1976. Ils voulaient avoir des activités sportives et culturelles sur le village pour pratiquer quand même quelques exercices et puis se retrouver, être dans la convivialité. Et donc, ils ont commencé avec des activités de gymnastique. Il y avait aussi du théâtre, il y avait de la danse. Il y avait des jeunes Maubelans à l'époque qui devaient avoir 18 ou 20 ans et qui se réunissaient, qui avaient créé un groupe qui s'appelait les Fous du spectacle. Et donc, ils se déguisaient, ils faisaient des sketchs, ils se divertissaient en fait. Aujourd'hui, le CJA a évolué, bien sûr. Mais il a quand même à son actif une dizaine de sections différentes, comprenant des activités sportives, culturelles et de loisirs, entre autres donc de la gym fitness, de la gym douce qui est réservée essentiellement aux seniors, du stretching, du pilates, du théâtre pour les enfants et les préados, du yoga, et puis aussi des travaux manuels comme le patchwork, le scrapbooking, des activités de loisirs avec de l'astronomie, des voyages, des petits voyages avec la section culture et voyages. Et cette année, le CJA s'est enrichi d'une nouvelle section qui est un club d'œnologie qui permet de connaître les techniques d'élaboration de vin et l'art de la dégustation. Donc toutes ces activités se pratiquent dans un état d'esprit convivial et permettent aux Maubelans de se retrouver, ce qui est un point essentiel au sein du CJA.
Avec toutes ces facettes et toutes ces activités, vous avez à peu près combien d'adhérents au CJA ?
On a pas loin de 200 adhérents, 1980 au dernier recensement, on va dire, dernières inscriptions. Donc on va peut-être, à la fin de l'année, on aura peut-être atteint les 200 adhérents. Mais étant donné que des adhérents pratiquent plusieurs activités, donc nous dépassons les 200 participants, quoi, si nous comptons les activités pratiquées par des personnes.
Autant d'activités différentes demandent une certaine structure, une certaine organisation et un découpage entre des animateurs de chaque activité. Et comment vous êtes structuré à ce niveau-là ?
Alors oui, effectivement, le CJA, c'est d'abord un bureau de 6 personnes, et puis nous avons besoin de référents pour chaque activité. Sinon, ce serait trop difficile pour les gens du bureau de faire tourner toutes ces activités différentes. Donc ce sont les référents qui s'occupent des inscriptions, qui veillent au bon déroulement des activités, et c'est la municipalité qui nous permet de faire tourner toute cette petite entreprise, on va dire, en nous prêtant la salle municipale, la maison du village.
Bonjour, je suis avec Olivier Tisserand et puis Gérard Gallet, donc président et vice-président de l'association des vieux tracteurs. Olivier Tisserand, quand est-ce que vous avez créé cette association ?
Nous avons créé l'association en juin 2013.
Quel était le but de cette association et qu'est-ce que vous y faites ? Comment vous la faites fonctionner ?
Le but de cette association, en fait, c'est tout simplement, c'est ces véhicules. On a un patrimoine agricole qui est vivant et on veut faire sortir ces véhicules un peu des granges qu'il y en a dans tous les villages. Et les gens apprécient. Et le but, c'est de se trimballer entre villages d'année en année en changeant de secteur, du terre froide, un petit peu dans le côté lyonnais, limite côté lyonnais parce qu'on a des gens qui viennent de Lyon, la Savoie, l'Ardèche, de la Loire et du 38.
Gérard Gallet, je crois que vous êtes un bon collectionneur de tracteurs, vous en avez un certain nombre de différents modèles.
Oui, j'ai de la Nomag, Renault, Deutz, Vierzon, Lens, 27, entre 27 et 30.
Je crois que le fils, il a un petit peu attrapé le virus aussi.
Oui, question mécanique un peu moins que moi, mais bon, ça se passe pas trop mal.
Donc, quelles sont un petit peu les manifestations ? Il y en a une qui a eu lieu au mois de juin 2016 qui était assez importante, mais quelles sont un peu les manifestations que vous faites dans la région ou même plus loin que la région peut-être ?
Alors, dans notre région, sur la commune de Maubec, où fait partie le bureau, nous avons une manifestation qui est le 19 février. C'est une matinée saucisson et andouille à la chaudière qui nous attire assez de monde. On fait une petite exposition d'une quinzaine de tracteurs. Ensuite, on nous a demandé cette année au mois de mai, sur la commune de Chaiseneuve, de faire une exposition de tracteurs pour une manifestation de vieilles voitures. Après, on nous demande d'aller exposer des fois de droite à gauche. Mais bon, chaque personne du bureau va faire son petit défilé ou faire un petit concours de labour pour montrer notre association.
Dans le cadre de l'association, il y a les défilés de vieux tracteurs et donc vous venez de parler des concours de labour. Vous participez à des concours de labour aussi ?
Moi, personnellement, non. Gérard en a fait. Plus les autres personnes membres du bureau vont se déplacer commis agricole. On a fait des charbons cette année. Cette année, il y a 3 commissaires agricoles qui nous ont demandé d'aller faire des concours de labour. Et puis bon, il y en a qui montent aussi en Savoie et en même temps montrer nos affiches et nos petits livrets qu'on fait.
Et vous avez combien de membres dans cette association ?
Dans notre association, on est 8. On a un membre de 8. Mais si vous voulez, quand on fait un défilé comme le défilé 2016 cette année qui a fait Saint-Marcel, Bel-Accueil, Vénérieux et Saint-Savin, en tout, ça gère à peu près 60 personnes sur la circulation parce qu'il y a des règles à respecter. On peut pas faire ce qu'on veut.
La manifestation du mois de juin 2016, elle était assez importante et vous parlez de 60 personnes pour tout ce qui était géré à la circulation, mais il y a eu aussi toute une intendance autour et je crois que ça a mobilisé pas mal de choses et pas mal de gens.
Oui, tout à fait, ça mobilisait énormément de gens. Je pense qu'il y a à peu près 200 personnes qui sont mobilisées. On a servi 800 repas à midi et on estime à peu près à 3000 personnes, 3000 visiteurs, avec comme on a une entrée qui est gratuite, qui viennent nous voir et nous applaudir.
La manifestation 2016 a été un succès. Est-ce que celle de 2017 est prévue et elle se passera comment ?
Celle de 2017 est prévue déjà, si vous voulez, avant le départ de juin 2016, parce qu'on prend rendez-vous avec les communes avant. Et en même temps, nous essayons déjà de faire un petit peu le parcours. Et cette année 2016 va se dérouler entre Optovose, Trèpes et Solimieux.
Toujours dans le Nord-Isère.
Tout à fait, toujours dans le Nord-Isère.
Le différent matériel, donc Gérard Gallet nous a dit parler de ses 27 tracteurs, d'ailleurs il ne les fait pas tous tourner en même temps, je crois. Et quels sont les autres matériels, les autres tracteurs que possèdent les autres membres ? Parce que je crois que les tracteurs sont la propriété des gens, des membres de l'association.
Oui, tout à fait, oui, c'est la propriété des gens. Les tracteurs, on a du tracteur soviétique qui arrive à venir chez nous. On a du Farmal, du Fermalcom, du Vierzon, du Lens, du Vendeuve, tout à fait, du Sommeca, du Ford, du Jeune-Dire. Et puis après, bon, tout type de personne a-t-elle un matériel ancien derrière son véhicule pour montrer des vieux soumoirs, des vieilles charrues, des vieilles remorques, et se met à la couleur de l'ancien temps, on va dire, il s'habille comme autrefois.
Moi, j'ai vu en 2016 un charpentier avec son tracteur.
Oui, monsieur Jean-Louis Ginet, qui s'est battu depuis 2 ans à mettre son tracteur en route, qui nous a rejoint qu'à midi. Il avait un problème de pompe à injection. Vous savez, la vieille mécanique, c'est très dur. À l'heure actuelle, pour trouver une pièce, c'est très, très difficile. Alors, on a encore la chance d'avoir, on va citer le nom, monsieur Martin à Bâti, qui peut encore nous réparer ses vieux engins au niveau pompe à injection. Et qui lui a fait un petit caprice et qui a remonté son tracteur le matin même pour venir nous rejoindre à midi à Vénérieux pour arriver sur la commune de Saint-Savin.
Oui, donc vous parlez des pièces détachées. Est-ce que c'est comme dans les voitures de collection où il y a des bourses de pièces détachées, il y a des circuits particuliers où les gens peuvent acheter, trouver du matériel?
Oui, il y a des bourses aussi comme dans les pièces automobiles, mais dans notre région, on n'en a pas. C'est plus dans le centre de la France. C'est très difficile à trouver des pièces. On arrive à avoir de la pièce que les gens commandent à l'étranger, mais c'est tout ce qui est Angleterre et Allemagne. Mais en France, ça devient très difficile d'avoir une pièce. On a beaucoup, les gens tournent une pièce qui peut se permettre de tourner, que ça soit une fusée, un pivot ou même un axe de volant ou n'importe quoi. Les gens fabriquent et refont à l'heure actuelle à l'identique.
Quelquefois, les tracteurs étaient liés aussi au fait de la batterie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare à ce niveau-là ou est-ce que ça va se refaire ou pas se refaire?
Oui, alors théoriquement, la dernière semaine de juillet, Saint-Victor-de-Cessieux, une batteuse, une presse et un vierzon pour l'entraînement.
Les vierzons, c'était ces moteurs 8 cylindres ou 16 cylindres, c'est ça, qui tournaient, mais qui étaient tous regroupés en un seul, hein.
C'est un monocylindre, qui est une cylindrée de 12 000 et quelques centimètres cubes.
C'est de la mécanique un peu particulière.
Vous êtes sur 97.1 à l'écoute de Couleur FM. Voici un moment musical avec la guitare et la belle voix du Napolitain Roberto Murolo.
Quando viene appuntamento, guardo mare, guardo il fronte, se ti parlo non rispondo. Stai distratta con ma chi? Io ti tengo dentro cuore. Sono ancora innamorata, ma tu invece pensa nata e ti stai scordando di me. Quando si dice sì, tiene la mente. Non sa da fa morino coramante. Tu mi diciste sì na sere maggio e mi tieno coraggio e mi lassa. Che tuoi non so sincero, come quando mi incontraste, come quando mi diciste, voglio bene sulla te. E tre mani mi giuraste, con una mano in coppa cuore, non si scordo prima amore, ma te stai scordando me. Se dice sì, tiene la mente, non sa da fa morino coramante. Tu mi diciste sì, na sere maggio, e mo tieno coraggio, e mo lasciar.
diciste sì, nascere maggio, e mo tieno coraggio, e mo la so.
L'activité économique et agricole y est importante. On trouve à Maubec des entreprises de toute taille et des exploitations agricoles novatrices et dynamiques. Pour les représenter, nous avons donné la parole au Moulin du Bion, fournisseur de la farine pour les boulangeries Banette, ainsi qu'à deux artisans d'art, Cécile Drevon et son atelier de la Libellule, qui rayonne dans toute la France avec ses illustrations pour la jeunesse, et Irène et Michel Collet de l'atelier du Marron, tisseurs et créateurs de vêtements originaux. Dans le monde agricole, nous avons été séduits par deux fermes, un élevage de bovins et un élevage porcin. Isabelle et Roland Badin, qui exploitent 120 hectares de culture et un troupeau de bovins, adeptes d'une agriculture novatrice, ils sont rejoints par leur fils qui va assurer la succession avec un principe mélangeant continuité et diversification. Et la ferme de la Fontaine de Silan, où Frédéric Bonas élève des porcs dont il transforme et commercialise lui-même la viande. Ces deux exploitations voisines travaillent beaucoup en complémentarité et leurs produits sont écoulés localement, notamment dans le magasin de la Halle Paysanne à Bourgoin-Jallieu. Bonjour, je suis chez Irène et Michel Collet de l'atelier du Marron. Ils font ce que l'on peut appeler du tissage et de la confection d'art. Que des deux, qui tisse et qui fait la confection?
Principalement, c'est moi qui tisse, puisque c'est quand même assez physique de tisser. Et mon épouse, qui est styliste et modéliste, fait la confection des vêtements, réalise donc les dessins. Et ensuite, à partir des tissus que je fabrique, crée des modèles de vêtements, des vêtements.
Donc vous êtes installé à Maubec depuis combien de temps?
On s'est installé un peu dans les années 80, un peu 1980. Bon, c'est vrai que le Nord-Isère est une région de tissage. C'est un peu ce qui nous a aussi poussé à s'installer sur Maubec. Et on est surtout autodidacte. On a pris des renseignements à droite à gauche. Et c'est comme ça qu'on a attaqué l'activité de tissage.
Donc le principe du tissage chez vous est manuel, artisanal. Donc les métiers, c'est des métiers, j'en ai un sous les yeux là, c'est un métier tout simple, pas du tout sophistiqué, un peu ceux qu'on trouvait au 19e siècle, hein, je crois pratiquement. Et donc ce qui implique beaucoup de temps, les tissages longs, est-ce que vous pouvez nous dire un peu combien de temps ça vous prend pour tisser une pièce?
Oui, ce sont des métiers qui ont été conçus par des anciens tisserands, donc tout en bois et tout entièrement manuel. Alors la première étape pour tisser, c'est de ce qu'on appelle monter une chaîne, c'est-à-dire monter des fils sur le métier à tisser. Donc suivant le tissu qu'on veut réaliser, ça peut prendre une journée, comme une semaine, voire un peu plus, suivant la largeur du tissu qu'on fait et le nombre de fils au centimètre. Donc c'est une opération qui est très minutieuse et quand même assez longue. Donc une fois que le métier est préparé, après différentes étapes, donc il y a le montage de la chaîne, il y a ce qu'on appelle l'ourdissage, monter les fils sur dans les petits œillets qui sont dans les cadres, et après ça, on peut commencer à tisser. Et ensuite, le tissage, l'avance du tissage est aussi fonction du tissu qu'on réalise. On peut tisser 50 cm en une heure ou moins si c'est un tissu plus fin.
Donc vous tissez, ensuite vous créez, votre épouse crée des modèles de vêtements et puis elle les réalise elle-même, je suppose, à partir des tissus que vous avez produits. Est-ce que vous avez des catalogues? Je vois beaucoup d'étoiles ici dans votre atelier. Est-ce que vous avez des types de vêtements que vous produisez?
Bon, le gros de la production, ce sont principalement des écharpes, des étoles, des plaids. Donc ça, ce qui nécessite peu de couture. Et à côté de ça, comme je disais tout à l'heure, c'est mon épouse qui va créer des vêtements beaucoup plus sophistiqués, beaucoup plus élaborés, à partir d'un modèle qui vont prendre des fois 2-3 jours pour faire un vêtement.
Donc les vêtements qui sont faits à partir de certains nombres de fibres. Quels sont les modèles de fibres et comment vous les choisissez?
Nous, on tisse que des fibres naturelles, soit végétales, soit animales. Alors, le choix des fils, on les trouve principalement en filature. On est très attaché à la qualité du fil et ensuite aux couleurs. Moi, je travaille beaucoup les couleurs, principalement dans les écharpes et les étoiles. Je mélange 15-20 couleurs. Donc, c'est toute une technique des couleurs. J'ai fait plusieurs stages sur la couleur pour associer, pour avoir des ensembles harmonieux au niveau du résultat final. Donc, alors maintenant, après, dans les fibres qu'on utilise, utilise, c'est principalement, donc il y a de la laine, bien sûr. Il y a le mohair, qui est la chèvre angora. Et depuis quelques années, bon, il y a la soie, bien entendu, je me suis lancé dans le cachemire et l'alpaga. Des animaux qui vivent en altitude à plus de 4000 mètres et qui ont une laine extrêmement chaude, très, très soyeuse, très douce. Donc c'est un peu le top au niveau de la qualité des fibres, mais on a des résultats vraiment très intéressants avec.
Donc vous avez au niveau des fibres animales, vous avez aussi le mouton, je pense que c'est quoi? C'est le mérinos le plus important?
Absolument. Dans le mouton, c'est la laine mérinos qui est le plus important. Alors dans le mérinos aussi, il y a différentes qualités suivant la grosseur des fils, mais dans les laines, on a toutes les qualités. On trouve des laines à 5 euros le kilo, puis on trouve des laines à plus de 100 euros le kilo.
Et les fibres végétales, vous avez quoi? Vous avez le lin, vous avez le chanvre, vous avez différentes fibres végétales. Et j'ai vu une fibre végétale qui s'appelle la ramie, alors je ne sais pas ce que c'est.
Globalement, dans les fibres végétales, souvent la base des chaînes que je monte sont en coton. Et ensuite, dans les fibres végétales, on connaît beaucoup le lin et le chanvre. Et une autre fibre qui est mal connue, qui est la ramie. Et la ramie, en fait, c'est une ortie sauvage, qui pousse dans les pays asiatiques. C'est une fibre imputrescible, qui est extrêmement douce. Les Asiatiques appellent la ramie la soie végétale. Très agréable au contact de la peau. Un tissu en coton et ramie, c'est un régal à porter.
Donc vous produisez, vous avez une certaine quantité de production, et puis comment ça se passe au niveau de la façon dont vous écoulez vos productions? Vous n'avez pas de magasin chez vous, a priori, donc vous avez des circuits qui sont peut-être des salons, des magasins, des boutiques.
Oui, effectivement. Donc on a deux circuits principalement pour écouler nos produits. Deux, trois boutiques collectives qui sont une dans le Vercors à Autran, une à Vénosque en bas des Deux Alpes et également en Chartreuse à Saint-Pierre-d'Entremont. Donc ça, c'est le premier circuit. Et le deuxième circuit, on fait principalement des salons à thème axés sur la laine. Il y a deux très grosses manifestations en France. Une à Cray dans la Drôme qui va bientôt avoir lieu, là au début deuxième week-end de février. Et une autre qui se produit au mois d'octobre au sud d'Aubusson, à Feltin, où là on est plus de 100 exposants sur la laine. Donc ce sont nos principaux circuits pour vendre notre production.
Et localement, vous avez des salons, des expositions, vous participez?
Alors, localement, on a un salon, donc on est les organisateurs depuis une trentaine d'années. C'est le salon Articade à Four, qui se situe à côté de Bourgoin-Jallieu, où on regroupe environ 35 artisans d'art de qualité dans tous les métiers de l'artisanat. Donc, deuxième week-end de décembre, juste un peu avant les fêtes. Donc là, on a un public très averti qui vient à ce salon, qui est très intéressant au niveau variété et au niveau qualité.
Je crois qu'on a fait le tour, on a parlé de la production et de la commercialisation. Il me reste à vous remercier, vous et votre épouse, pour votre accueil.
Je vous remercie également. C'était un plaisir de parler un petit peu de mon activité. C'est vrai que le tissage à main n'est pas très répandu et pas très connu non plus pour certaines personnes.
Bonjour, je suis avec Cécile Drevon de l'atelier de la Libellule. Donc la première question que je veux lui poser, c'est de demander pourquoi l'atelier de la Libellule?
Alors l'atelier de la Libellule, c'est le jour où j'ai ouvert l'atelier, une de mes amies m'a offert une jolie céramique Libellule que j'ai posée au-dessus de ma porte et à ce moment-là je cherchais le nom et il était déjà tout trouvé, donc c'était comme une évidence, voilà.
C'est tout simple. Et quelle est l'activité de l'atelier de la Libellule?
Alors je suis illustratrice orientée enfant. Je travaille essentiellement pour des maisons d'édition ou des commandes privées ou des particuliers. Ça peut être aussi des particuliers. Donc je crée des visuels, des dessins qui vont être ensuite appliqués sur différents supports, papier ou tissu.
Quel est le parcours qui vous a amené à travailler de cette façon-là?
Alors j'ai fait des études d'art appliqué et j'ai commencé à travailler dans le textile, donc j'ai eu une formation plutôt orientée textile. Et suite à un licenciement, depuis très longtemps j'avais envie de travailler plutôt dans l'illustration jeunesse et ça a été l'occasion. J'ai ouvert l'atelier il y a une dizaine d'années et j'ai commencé à monter une série de dessins orientés jeunesse que j'ai présenté à des maisons d'édition et l'aventure a commencé comme ça. J'ai au début travaillé beaucoup l'objet, la déco et petit à petit mon travail a évolué et j'ai réussi à savoir un petit peu plus, savoir ce que je voulais, à m'orienter un petit peu plus sur de l'illustration pure alors qu'au départ je faisais beaucoup d'objets, de travaux plutôt artisanaux. Aujourd'hui mon travail est plutôt destiné à l'édition, papier, essentiellement, ou tissu. Je reviens un petit peu au tissu. Aujourd'hui, on peut encore trouver mes illustrations sur des tableaux ou sur également des tableaux bois, mais le plus gros de mon travail est quand même destiné à l'édition.
Est-ce que vous faites de la carte postale ou des objets comme ça qu'on trouve en vente de manière unitaire quelquefois dans les papeteries ?
Oui, on peut trouver tout mon travail dans les papeteries, dans les boutiques d'art, dans des magasins de déco, notamment à Lyon. Je connais un petit peu les clients qui achètent mon travail. Et quelquefois, j'ai soit des amis, soit des clients de passage qui me disent qu'ils ont trouvé mes cartes postales dans une papeterie Aix-les-Bains ou à Annecy ou à Paris. Ça arrive régulièrement, oui. Et mon travail aussi peut se trouver un petit peu aux frontières en Suisse, en Italie ou en Angleterre également.
Donc vous avez quand même un bon rayonnement maintenant, vous êtes connu et vous avez un bon rayonnement de votre travail un peu partout en France et puis un petit peu en débord sur les frontières limitrophes.
Alors rayonnement, c'est un grand mot, ça reste fragile et c'est tout le temps remis en cause, c'est-à-dire qu'on peut pas s'endormir sur ses lauriers, il faut tout le temps remettre en cause son travail, se relancer sur des nouveautés. Et continuellement chercher de nouveaux contrats, c'est pas quelque chose qui est pérenne dans le temps, il faut tout le temps se renouveler. Donc le rayonnement est fragile quand même.
Oui, je comprends bien, c'est un métier d'art, donc d'artisanat d'art, et c'est pas facile. Vous participez à des manifestations locales dans des salons d'artisanat d'art, comme on peut en trouver à Four, à Crémieux?
Alors, au début du démarrage de l'activité, j'ai beaucoup fait de salons comme celui de Four ou de Crémieux, de Lyon, à Idée d'art à Lyon. Ça m'a permis également de rencontrer des artisans, de me créer aussi du lien et de me créer un réseau local. Très particulier le travail sur salon avec une grosse préparation et donc j'ai petit à petit arrêté et aujourd'hui je n'en fais plus du tout. Je travaille essentiellement soit chez moi soit à mon atelier et je livre mes dessins à mes clients et il m'arrive de faire quelques expos mais c'est des expos plutôt d'art.
Quand vous créez un dessin, vous le créez donc en tant que pièce originale. Et est-ce que ce dessin, après, est multiplié? Est-ce que c'est vous qui le faites ou est-ce que c'est l'éditeur, la maison d'édition qui fait la multiplication, qui fait les tirages derrière?
Alors moi, j'ai juste un travail de création. Ensuite, l'éditeur va valider mon travail et va s'occuper de toute la production, la partie commerciale. Et je suis juste auteur-illustrateur et je touche des royalties. Donc la partie commerciale qui m'intéresse pas du tout, n'est pas du tout de mon côté au niveau de la production, je dirais, et de la vente.
Et maintenant, donc, vous avez trouvé, on va dire, votre créneau, votre niche pour travailler, donc vous restez dans cette niche pour les années à venir.
Oui, je pense que j'ai vraiment trouvé ma place. Ça a été long à savoir exactement où j'allais et ce que je voulais réellement. Bien évidemment, ça évolue, j'ai encore d'autres projets, d'autres envies. Mais ce qui est sûr, c'est que ce que j'aime, c'est dessiner et inventer des images pour l'édition jeunesse.
Bonjour, je suis à la ferme du Grand Pré chez Isabelle et Roland Badin et Francis, leur fils, qui n'est pas là pour l'instant, mais Isabelle et Roland vont parler un petit peu de leur ferme. Donc, depuis combien de temps est-ce que vous exploitez cette ferme ? Est-ce que c'est une ferme d'exploitation familiale ?
Bonjour, donc oui, on a repris la ferme familiale en 97 et puis on l'a agrandi petit à petit jusqu'en 2012 où mon fils a repris notre exploitation et qui est venu nous rejoindre.
Vous faites deux choses dans cette ferme, vous faites de l'élevage et de la culture. Donc au niveau de l'élevage, c'est du bœuf, donc vous allez nous préciser un peu le type de bœuf, parce que je crois en plus que vous allez changer de race, ou du moins doubler la race qui est sur l'exploitation.
Oui, effectivement, aujourd'hui on est en race charolaise, et puis depuis 2 ans, on a introduit des taureaux angus. Donc c'est des taureaux qui ont la particularité de pas avoir de cornes, et puis qui sont bien plus rustiques et avec une facilité d'élevage, notamment au niveau des naissances.
La taille de votre troupeau à peu près ?
Donc en tout, on a 170 bêtes, donc on a une soixantaine de mères, et puis après avec les suites, quoi, donc ça fait 170 bêtes.
Pour ce qui est donc c'est des vaches allaitantes que vous avez, au niveau des vaches permanentes, et au niveau des veaux, les naissances, ça se passe quand ?
Nous, on a deux périodes, on commence en septembre jusqu'à novembre, et après on a une autre période de mars à avril, qui déborde un petit peu sur mai. Bah, je crois que voilà mon fils.
D'accord, bon, on va l'attendre. Vous allez pouvoir parler alors ? Non, non.
Vous faites de l'abattage, donc de l'abattage de génisses, je pense. Et puis allez-vous aussi. Donc comment vous vous occupez de cet abattage? Ça se fait ici, c'est vous? Il y a un abattoir agréé, ça se passe comment?
Oui, donc on tue de la jeune vache et des bœufs. Donc c'est-à-dire que tous les mâles nés sur l'exploitation, ils sont castrés de manière à faire des bœufs. Donc à l'âge de 3 ans, après on les emmène à l'abattoir à Grenoble, l'abattoir du Fontanil. Donc c'est un abattoir qui a été repris par les agriculteurs en pôle coopératif. Donc c'est un laboratoire qui est agréé, qui est dans les normes, il n'y a pas de problème. Moi j'emmène les bêtes vivantes à l'abattoir et mon collègue, M. Bonas, retourne chercher les carcasses 2 jours après.
Oui, on parlera de Frédéric Bonas après, parce que lui, il a d'autres choses. Donc. Et donc, l'abattage, donc les carcasses, et la découpe, elle se fait comment?
La découpe se fait chez nous à la ferme, dans un laboratoire agréé, qui est un boucher qui vient, qui débite la viande, et mon épouse la met sous vide en pièces individuelles. Mais je crois qu'on va lui laisser peut-être parler de ça, parce que c'est mieux son rayon.
Je crois que c'est vous qui faites le conditionnement et qui transportez ça à la halle paysanne.
Oui, c'est ça. Donc le boucher vient une fois par semaine ou tous les 15 jours, ça dépend le rythme qu'on a. Il découpe et moi, au fur et à mesure, je mets sous vide. Ensuite, j'emmène à la halle paysanne et là, on a un rayon conditionné, donc des steaks, du bourguignon, du braisé, du pot-au-feu, voilà. Et on gère ça, ça permet de bien valoriser notre viande et puis de proposer aux clients toujours de la viande fraîche.
À la halle paysanne, il n'y a pas de découpe sur place, c'est tout du pré-découpé sous vide que vous apportez.
Alors nous en bœuf c'est du sous-vide parce que il faudrait un boucher en permanence, on peut pas l'avoir à la halle paysanne. Par contre il y a d'autres produits à la halle qui sont pas sous-vide, d'autres viandes parce que c'est moins compliqué en volaille par exemple. La viande de bovine est très spécifique, il faut la découpe adéquate et tout le monde s'improvise pas boucher.
Donc un autre côté à la halle paysanne, on parle d'agneaux venant de chez vous, mais je crois que c'est pas tout à fait vrai, pas tout à fait ça.
Oui, donc effectivement les agneaux, on a arrêté la production d'agneaux et c'est un monsieur Farce qui faisait du fromage de brebis et qui avait du mal un petit peu à valoriser ses agneaux. Et nous, on avait une surcharge de travail sur l'exploitation, donc on a arrêté le troupeau ovin, et ce qui lui a permis, lui, d'étoffer un peu sa gamme. Donc il fournit des fromages de brebis et de la viande d'agneau.
Donc ça, c'est la partie, on va dire, élevage. Et il y a la partie culture maintenant. Comment ça se passe au niveau de la culture?
Eh ben, on cultive 120 hectares à peu près de culture céréalière, quoi. Donc on a du colza, du blé, de l'orge, tournesol, soja, et qu'est-ce que j'ai oublié, enfin un petit peu de sarrasin aussi. Voilà, donc la particularité de la ferme, c'est de travailler en non-labour. Donc on laboure plus les sols. Depuis 2003, on a supprimé la charrue. Donc on fait du semis direct et du strip-till. Le strip-till, c'est un outil qui travaille que la future ligne de semis, afin de préparer un environnement favorable aux cultures en ligne. Donc les cultures en ligne, ce sont les tournesols, le maïs, le soja et le colza. Donc voilà, depuis qu'on a arrêté la charrue, on voit qu'il y a beaucoup de vers de terre qui fait le boulot de la charrue, quoi, si on peut dire. Et on a un sol vivant, donc il y a une grosse activité microbiologique dans les sols.
Dans la culture en particulier du tournesol, souvent il y a des cultures de tournesol où il y a que du tournesol et derrière, dessous, c'est complètement la terre complètement nue. Et ça, c'était très favorable, par exemple à l'ambroisie. Donc votre façon de cultiver, est-ce que ça limite l'ambroisie?
Ça limite légèrement l'ambroisie parce que le tournesol on l'implante derrière un maïs, donc on laisse les fans de maïs au sol, ce qui fait un paillage. Donc par ce biais-là, on a diminué un petit peu la pression de l'ambroisie, mais qui malgré tout reste un fléau.
Donc toutes vos cultures, il y en a une partie qui sert, je pense, les tourteaux de colza et autres qui vont servir votre exploitation pour les animaux. Et le reste, vous les coulez de quelle manière?
Donc effectivement, on fait presser de l'huile des graines de colza et de tournesol. Donc on vend l'huile de tournesol et de colza à la halle paysanne. Et les tourteaux, ils servent à nos bêtes, à l'alimentation de nos bêtes. Après, toute la partie céréales est vendue en contrat avec la coopérative dauphinoise, pour pas la citer. Et les maïs, c'est pareil, ils sont vendus à la coopérative.
Donc il y a votre fils qui vient d'arriver ici, puis qui est arrivé il n'y a pas très longtemps dans l'exploitation. Donc vous allez reprendre, je pense, l'exploitation derrière. Et qu'est-ce qu'elles idées innovatrices? Déjà, on sait que il y a déjà le troupeau, il y a la race bovine qui va évoluer un petit peu. Et autrement, vous allez continuer à peu près de la même façon que votre père ou...
Oui, on va continuer à développer la race Angus et puis essayer de mieux valoriser les céréales, notamment en essayant de vendre de la farine de blé.
Et j'ai entendu parler de sarrasin aussi, la farine de blé noir, là, ça peut se vendre aussi, non?
Oui, également.
Donc maintenant j'ai une petite question, ça va introduire puisque vous avez un voisin qui s'appelle Frédéric Bonas que je vais interviewer juste après. Qu'est-ce que vous faites comme travail en commun? Apparemment il y a déjà un côté découpe, un côté conditionnement qui sont dans un laboratoire commun entre ça, puisque lui fait de l'élevage de porc.
Donc effectivement on travaille avec Frédéric Bonas, donc on a un laboratoire de transformation en commun. Donc lui comme de profession il est plus charcutier. Donc il nous transforme nos bêtes, toute la partie découpe, et nous en échange on lui élève ses porcs en lui fournissant la farine avec nos céréales qui sont cultivées sur le plateau. Donc c'est un échange comme ça de travail qui se fait du fait de l'antériorité nous étions associés en GAEC. On a séparé le GAEC et on a chacun notre indépendance, mais nous continuons à travailler ensemble.
Oui, d'accord. Donc vous êtes complémentaires à certaines choses, mais au niveau des productions, vous êtes complètement différents, puisque lui fait de la production de porc et vous faites de la production de viande bovine. Bah, écoutez, je vous remercie, merci madame, puis merci messieurs, et bonne chance aux jeunes qui reprennent. Vous êtes sur 97.1 à l'écoute de Couleur FM. Et même si Graham Albright dit qu'il faut que je m'en aille, restez avec nous pour la suite de nos programmes.
Le temps est loin de nos 20 ans. Des coups de poing, des coups de sang, mais qu'à 20e, c'est pas fini. On peut chanter quand le verre est bien rempli. Du vent encore, une dernière fois, à l'amitié, l'amour, la joie. On a fêté nos retrouvailles. Ça me fait de la peine, mais il faut que je m'en aille. Et souviens-toi de cet été, la première fois qu'on s'est saoulé, tu m'as ramené à la maison, en chantant, on marchait à reculons. Buvons encore une dernière fois à l'amitié, l'amour, la joie. On a fêté nos retrouvailles. Ça me fait de la peine, mais il faut que je m'en aille. Je suis parti changer d'étoile. Sur un navire, j'ai mis la voile pour n'être plus qu'un étranger, ne sachant plus très bien où il allait. Buvons encore une dernière fois à l'amitié, l'amour, la joie. On a fêté nos retrouvailles. Je m'ennuie pas, mais il faut que je m'en aille. Je t'ai raconté mon mariage à la mairie d'un petit village. Je rigolais dans mon plastron quand le maire essayait de prononcer mon nom. Buvons encore une dernière fois à l'amitié, l'amour, la joie. On a fêté nos retrouvailles, ça me fait de la peine, mais il faut que je m'en aille. Je n'ai pas écrit toutes ces années, et toi aussi, t'es marié, t'as 3 enfants à faire manger, mais j'en ai 5 si ça peut te consoler. Buvons encore une dernière fois à l'amitié, l'amour, la joie. On a fêté nos retrouvailles. Ça me fait de la peine, mais il faut que je m'en aille.
Bonjour, je suis avec Frédéric Bonas, qui est l'exploitant de la ferme de la Fontaine de Silan, qui est un élevage porcin et qui en même temps est aussi charcutier et qui vend dans différents points. Donc déjà, je vais lui demander depuis combien de temps cette ferme existe.
Alors, je me suis installé en 99.
Donc ça fait 18 ans. Au niveau de l'élevage, ça se passe comment? Est-ce que l'élevage, le porc, vous l'élevez, vous les achetez, vous avez des mertruits ou est-ce que vous achetez des porcelets?
Alors, non, je fais pas de naissance. Je travaille avec un producteur qui est à Pusignan, l'élevage à la Bouvette, qui me fournit des porcelets de 30 et 40 kilos et quand ils sont livrés. Ils ont donc 2 mois et demi, 3 mois. Et ensuite, on les garde pendant 18 semaines, 20 semaines, pour les monter à un poids de 130-140 kilos vivants, ce qui fait des carcasses de 100 kilos, 110 kilos.
Pour les élever, vous avez donc des produits, et ça, vous le faites avec votre voisin et collègue de la ferme du Grand Pré, je crois.
Voilà, ouais, il y a une histoire avec la ferme du Grand Pré, puisque à une période on était même associés pour des raisons comme moi je voulais refaire une activité un petit peu à côté en parallèle. On a dissous ce GAEC, on continue à beaucoup travailler ensemble et donc tous les céréales, c'est lui qui me les vend, qui me les fournit. Après on rachète un petit complément de minéraux et de soja, mais tout ce qui est céréales est produit localement.
Donc, une fois que les porcs ont été achetés à 20 ou 30 kilos et puis nourris par les céréales du Grand Pré, il y a tout ce qui est abattage et puis conditionnement, ça se passe comment?
Alors, l'abattage, il est fait à l'abattoir de Grenoble, le seul abattoir de l'Isère qui abat encore des porcs aujourd'hui. Donc là, c'est toujours avec la ferme du Grand Pré, avec Roland Badin, que le transport est organisé, le transport des bêtes vivantes. Et ensuite, c'est moi qui récupère les carcasses pour les ramener sur l'exploitation où on a un laboratoire de fabrication et où on, tout au long de la semaine, on découpe, on trie, on hoche, on prépare, on cuit, toutes sortes de charcuteries.
D'accord. Donc, et après, une fois que cette charcuterie est préparée, découpée, il faut la vendre. Donc, vous avez, je crois, la halle paysanne qui est effectivement, qui en découle une partie. Et puis, vous-même, vous avez des magasins de traiteurs et vous en découlez aussi dans ces magasins de traiteurs. Comment ça se passe?
Alors oui, à la base, l'exploitation en 99 s'est créée pour fournir le point de vente de la halle paysanne qui venait d'ouvrir. Enfin, c'est ce qui a permis la création de cette exploitation. Comme mon premier métier était charcutier traiteur, je voulais retourner un peu à cette activité. En 2012, j'ai ouvert une boucherie à Domarin, avec boucherie traditionnelle, charcuterie et rayon traiteur. Et puis récemment, en mai 2016, on en a ouvert une à Champier, un peu plus en campagne.
D'accord, donc vous écoulez votre production comme ça, ou est-ce que vous avez d'autres façons d'écouler la production?
Non, ça nous permet de couler entièrement la production. Il n'y a pas de bêtes qui sont revendues par ailleurs. Tout est transformé.
Et vous avez combien de bêtes en permanence donc vous avez parlé de 18 semaines à peu près. Donc ça fait une rotation de 3 fois par an à peu près. Votre troupeau, finalement, c'est pas un troupeau, les porcs, mais vous en avez combien?
Sur l'exploitation, il y en a toujours entre 180 et 200. Quoi. On a des cycles de 3 semaines. Toutes les 3 semaines, on re-rentre des petits porcelets. Toutes les 3 semaines, il y a un emplacement qui se libère pour les accueillir. Ce qui fait autour de 180 à 200 porcs sur l'exploitation.
Donc en permanence. Ça demande quand même ce travail de conditionnement et autres. Ça demande des gens, ça demande des effectifs. Donc vous avez quelques personnes qui travaillent avec vous et pour vous.
Alors, oui, maintenant, au départ, j'ai commencé tout seul en 99, mais maintenant, je passe plus de temps sur la partie commercialisation. Donc, j'ai du personnel qui est plus à la fabrication, qui continue à élaborer les recettes que j'ai mis en place. Oui, donc, il y a 2 charcutiers, une personne qui fait plus de l'emballage, et puis actuellement, j'ai aussi 2 apprentis.
Donc ça fait vivre quand même quelques personnes. Et je crois qu'on a terminé pour la partie porc. Maintenant, votre ferme s'appelle la ferme de la Fontaine de Silan. Alors il y a une fontaine qui est juste à côté de la ferme là. Maintenant, est-ce qu'elle a une histoire, cette fontaine?
Alors, elle a une petite histoire, mais que je connais peut-être pas sur le bout des doigts. Elle a été faite par les habitants du quartier, où il n'y avait pas vraiment beaucoup de puits dans chaque maison. Donc, il y a un captage qui a été fait, mais je saurais pas vous dire l'année. Par les habitants du quartier, elle est, même si elle est sur le long du chemin, elle appartient à la ferme de Monquin, la ferme de Jean-Jacques Rousseau. C'est sur le terrain de la ferme, voilà.
On retrouve Jean-Jacques Rousseau encore là. Écoutez, moi je vous remercie. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Merci beaucoup, Frédéric Bonas. Bonjour, je suis avec Monsieur Laurent Pétrus, qui est le directeur des Moulins du Biron, qui va déjà vous faire un bref historique de ces moulins, qui sont assez conséquents.
Bonjour, Laurent Pétrus. Donc oui, je suis le directeur des Moulins du Biron. Nous appartenons, les Moulins du Biron appartiennent à la famille Nicot depuis 1980. La famille Nicot, qui sont meuniers de père en fils depuis 5 générations en Bourgogne, particulièrement à Chagny, ont racheté les moulins début des années 80 à la famille Berléa, qui était meunière sur le site des Moulins du Biron depuis les années 50. Donc la famille Nicot possède ce moulin et a développé ce moulin très fortement dans les 10-15 dernières années. Aujourd'hui, nous produisons et nous vendons de la farine aux artisans boulangers et à quelques industriels locaux. Nous sommes plus particulièrement connus avec la marque Banette, puisque nous vendons de la farine Banette aux boulangers Banette, mais aussi aux artisans boulangers sans marque qui souhaitent développer leur nom et leur enseigne.
Vous produisez pour les boulangeries Banette essentiellement. Les boulangeries Banette, ils ont plusieurs types de pain. Il y a des pains en graines, il y a des pains. Est-ce que c'est sur des recettes de chez vous qu'ils produisent leur pain?
Alors, les boulangers Banette utilisent donc oui la farine Banette en exclusivité, mais encore une fois, nous ne vendons pas que aux boulangers Banette, nous vendons aussi aux boulangers neutres. Oui, les boulangers Banette utilisent la farine Banette et utilisent tout un tas de farines pour faire des pains spéciaux, du sec, du complet, tout un tas de choses comme ça, de façon à pouvoir se diversifier et se démarquer de la concurrence, et entre autres de tout ce qui est GMS.
C'est une minuterie qui est assez importante. Vous employez combien de personnes sur le site?
Alors ici, nous sommes 65 personnes sur le site. Alors 65 personnes qui sont pas constamment sur le site, puisque nous avons une équipe de 16 livreurs, une quinzaine de personnes au niveau du service commercial, et puis le reste en production, livraison, en livre-production, magasinier et administratif. Aujourd'hui, les Moulins du Biron écrasent 90 000 tonnes de blé par an, que nous écrasons par jour 300 tonnes de blé par jour à un débit de 12 tonnes et demie à l'heure. Nous produisons à peu près 10 tonnes de farine chaque heure pour alimenter toute la région.
Est-ce que vous écrasez exclusivement du blé ou est-ce que vous écrasez du seigle et d'autres céréales?
Dans ce moulin, nous écrasons uniquement du blé provenant des régions Bourgogne, Franche-Comté, Rhône-Alpes, Auvergne. Aucun blé provient de l'étranger et j'irai aucun blé ne provient au-delà de Dijon et au sud de Valence, quoi, si on peut dire, puisque en fin de compte ce sont les zones de production importantes de nos régions, et puis on va dire à l'ouest on ne dépasse pas Clermont-Ferrand.
Je crois que vous achetez pas directement vos blés aux producteurs, vous passez par un intermédiaire.
Tous nos blés sont achetés à travers des coopératives ou organismes stockeurs privés. Donc aujourd'hui, vu les volumes utilisés, on ne pourrait pas avoir directement les agriculteurs qui viennent nous livrer le blé à la moisson, puisque aujourd'hui, pour donner une ordre d'idée, le moulin consomme à peu près une quinzaine de camions par jour de 25 tonnes. Et comme on tourne le samedi et le dimanche, on rentre à peu près entre 17 et 18 camions par jour. Donc vous imaginez, avec des bennes d'agriculteurs dans le moulin, ça poserait de gros problèmes d'infrastructure.
Les boulangers Banette affichent votre marque. Par contre, je crois que vous aidez à installer soit les fonds de commerce, soit le matériel, des boulangers, soit Banette, soit indépendants. Comment ça se passe? C'est une vieille tradition dans la minoterie, il me semble.
Donc oui, nos artisans boulangers clients sont tous des artisans boulangers Banette, donc sont tous des artisans boulangers indépendants. Ce sont eux propriétaires de leur fonds de commerce. Ce ne sont pas des franchisés. Ce sont des gens qui ont le libre choix de choisir leur fournisseur. Et donc s'ils choisissent de travailler avec les farines Banette et la marque Banette, c'est qu'ils estiment qu'ils ont un intérêt pour se démarquer de la concurrence. Cela dit, ça n'empêche que comme vous dites, de tradition meunière. meunières. Les meuniers ont toujours aidé les boulangers à s'installer pour leur premier achat ou quelquefois même le deuxième ou le troisième achat d'une boulangerie. Donc nous sommes capables de les aider d'un point de vue matériel, financier et choix de leurs affaires, dans du conseil, dans du soutien financier, aussi bien pour l'achat du fonds que du matériel à acheter pour rénover leur boulangerie.
Eh bien, écoutez, merci Monsieur Pétrus de cet entretien et puis de nous avoir donné quelques précisions, quelques éclaircissements sur une belle entreprise industrielle quand même de la région et de Maubec surtout. C'est une des plus grosses de Maubec.
Eh bien, je vous remercie aussi à vous de vous être intéressé à cette entreprise et puis de faire partager un peu notre quotidien à tous vos auditeurs.
Notre prochaine édition, toujours autour de Bourgoin-Jallieu, nous fera découvrir la commune de Domarin.